marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
De Roast, les bagages sont-ils prêts?
Oui, maître.
26 entre Italie et France.
C'est un grand bonheur, pour tout dire, que d'accueillir président de la République française, le président de la République italienne. L'Italie, c'est aussi notre allié fidèle pour défendre des valeurs de liberté, de droit, de démocratie, d'émancipation. L'Italie, c'est notre partenaire précieux pour nos échanges commerciaux, pour nos investissements. L'Italie, c'est une conception de la vie en société, de la culture et de la dignité humaine dans laquelle la France s'est toujours inspirée depuis la Renaissance.
Les présidents Hollande et Napolitano lors d'une visite d'État en 2012. Il paraît qu'à l'Élysée, on ne renonce pas à inviter le nouveau président de la République italienne, Sergio Mattarella, en visite d'État encore. Démocrate chrétien, issu du vieux monde et incarnant une autorité morale, il est le seul dirigeant italien en poste qui inspire encore confiance au gouvernement français. Matteo Salvini d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. Chacun veut assurer le leadership de son camp dans l'Union européenne. Les frottements ont été nombreux dans le passé immédiat, les chantiers de l'Atlantique et en Méditerranée, la Libye et les migrants. L'attitude à adopter vis-à-vis de Poutine en Russie ou de Maduro au Venezuela fait aussi débat entre les deux pays. Le gouvernement italien ne pouvait pas manquer l'occasion supplémentaire que lui offre le 500e anniversaire de la mort de Vinci. Un dispositif de prêt avait été mis au point. Deux Vinci de France en Italie en 2015. Des Vinci d'Italie en France pour une grande exposition au Louvre, décalée en octobre afin de permettre à l'Italie de célébrer la date anniversaire précise du 5 mai. Il était encore prévu l'envoi de plusieurs Raphaël du Louvre au Quirinal. La sous-secrétaire d'État aux biens culturels, qui appartient à la Ligue d'extrême droite, s'est empressée de dénoncer cet accord comme absurde. Le directeur des offices de Florence a déclaré qu'il préférait démissionner plutôt que de laisser partir ces trois Vinci. Les deux tendances à l'œuvre dans le gouvernement italien entrant nécessairement en contradiction, le ministre de tutelle de la sous-secrétaire d'État, qui appartient lui au mouvement 5 étoiles, a tenté d'arrondir les angles, tandis que, vous suivez toujours, le directeur de la Galerie nationale de Parme a assuré que son Vinci pouvait descendre de ses murs. Nous en sommes là. Vinci, à son époque, avait trouvé une manière d'être libre. Il s'était fait désirer par les princes. Peut-on d'ailleurs soutenir qu'à son époque existait une nation italienne? Peut-être même pas une nation française. Aujourd'hui, les nationalistes italiens revendiquent pourtant la Joconde comme un de leurs symboles. « Rendez-la nous et gardez Carla Bruni », je cite. Si c'est encore possible, nous allons essayer de parler autrement du rapport entre Vinci, l'Italie et la France.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et ce, avec Pascal Briouat. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un homme orchestre, là, cette année, aussi retenu dans votre agenda qu'une grande cantatrice. Deux expos, Romorantin, Barcelone, une édition des carnets de Vinci, puis un livre qui va paraître au mois d'avril, intitulé, il est publié chez Stock, Les audaces de Léonard de Vinci. Et j'y trouve une notation par laquelle on pourrait débuter. Paul Valéry disait, à quoi bon les biographies, et surtout la biographie de Vinci. Ce qui est intéressant, c'est le coup d'œil de Vinci, plutôt qu'une succession de dates, comme celle qu'on va faire défiler de 1482 à 1519.
Paul Valéry connaissait très bien son Vinci. Il connaissait le Vinci des années 1880, qui venait d'être publié pour la première fois par Richter, et il avait compris que une des grandes qualités de Léonard, c'est effectivement le coup d'œil. Léonard voit bien de loin, bien de près, et est capable d'analyser le mouvement comme personne avant lui.
Et de le décomposer.
De le décomposer.
Il est capable de voir où est sa liberté aussi. Il va choisir de s'émanciper des règles des corporations et de plaire au prince par la multiplicité de ses dons.
Voilà, alors il y a un double façonnage de soi chez Léonard, au moins. Un qui consiste à s'arracher au monde des corporations en devenant un artiste de cour, ce qui n'existe pas encore vraiment. Et deuxième stratégie, se construire, moins original, se construire comme un ingénieur militaire au service des princes. Et les deux vont fonctionner parallèlement.
Mais l'ingénieur militaire peut aussi fabriquer des machines pour les fêtes de cour.
Bien sûr, et tout cela avait déjà été le cas à l'époque florentine.
Alors l'époque florentine, l'époque milanaise, la plus grande au service des Sforza, va se terminer en 1499. Les Français de Louis XII interviennent en Italie, et là, pendant 5 ou 6 ans, Léonard de Vinci va être un peu démuni, parce que les cours qui peuvent l'embaucher sont-elles aussi démunies et incapables de conduire des projets à long terme?
Oui, alors ici, il y a un mystère. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que Léonard se retrouve, comme d'autres Milanais, comme Sanseverino, le gendre de Ludovic le Mort pourtant.
Ludovic le Mort, Sforza.
Sforza.
Duc de Milan.
Léonard de Vinci passe du côté des Français. Dès ce moment-là, dès 1499, on a des lettres où les Français demandent à Léonard de Vinci d'aller espionner un peu ce qui se passe à Florence et de rapporter l'ambiance post-savonarolienne de la ville.
Mais rassurez quand même nos amis de la Ligue, en Italie, il n'y a pas vraiment de nation italienne, il ne trahit pas une nation qui n'existe pas.
En fait, c'est ça. L'idée qu'il y aurait un patriotisme dès le XVIe siècle ne tient pas la route. D'ailleurs, à vrai dire, le patriotisme italien est quelque chose de très très récent. Pour les Florentins, Léonard est Florentin, pour les Milanais, Léonard est Milanais. À Bologne, on s'enorgueillit de savoir que Léonard y est peut-être passé. Donc, je suis même pas sûr qu'il y ait de longue date une Italie.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une nation française absolument constituée non plus. À cette époque, en tout cas, ce sont les troupes françaises qu'il va aller rejoindre, revenant à Milan. Alors nous sommes maintenant en 1506, après 5 ou 6 années d'errance, de cour en cour. À Milan, il va être accueilli très favorablement, même si certains moines, à entendre cette série télé de Renato Castellani et Jean-Dominique de La Rochefoucauld, du couvent où il avait peint la scène, pense encore du mal de lui.
2 années, pendant plus de 2 années pleines, on a condamné le réfectoire pour faire cette peinture-là. Et aujourd'hui, regardez-les, à peindre et à dessiner comme s'ils étaient à l'école. C'est un réfectoire ici, l'école, elle se fait sur des bancs. Je vous dis que cette peinture, c'est une catastrophe. Et elle nous empêche de percer une porte qui donnerait sur la cuisine.
Oui, une porte.
Et l'hiver, nous mangeons des plats à moitié froid.
Mais bien sûr.
Sans parler du spectacle de tous ces vauriens qui prennent leur repas dehors, assis par terre, comme des
bandits.
Regardez,
Léonard de Vinci.
À Milan, Léonard prend soudain conscience qu'il est le maître. Son art, destiné à laisser une empreinte ineffaçable sur la peinture lombarde, s'impose à travers toute l'Europe. Charles d'Amboise, maréchal de France et gouverneur du duché de Milan, est un grand homme de guerre et un protecteur des arts. Comblé par le retour de Léonard à Milan, il l'y accueille avec les égards dus au plus grand prince.
Sa Majesté ne peut accepter que vous nous quittiez. Vous a-t-on dit que lorsqu'elle a vu la Seine, elle pensait faire démonter le mur pour le transporter jusqu'en France? Nous avons fait venir des architectes de Paris, mais la chose est trop difficile.
Eh oui, il s'agit de la Seine, et le roi de France, à l'époque, c'est Louis XII. Et son homme à Milan, le duc d'Amboise, avec lequel Léonard va lier amitié féconde.
Oui, une amitié fondée pour des intérêts philosophiques communs, pour le néoplatonisme, pour des pièces de théâtre à organiser ensemble, pour l'architecture également. Il y a eu beaucoup d'occasions pour Charles d'Amboise et Léonard de travailler ensemble, y compris à une glorification de Louis XII, quand celui-ci, par exemple, venait de reprendre la ville de Gênes.
Donc, Léonard de Vinci va participer à l'élaboration des fêtes.
C'est ça.
De même que, ça c'est un projet qui aurait pu être plus durable, il va projeter une villa des merveilles, un peu, pour les loisirs du duc d'Amboise.
La villa du duc d'Amboise aurait été quelque chose d'absolument fabuleux dans les nouveaux quartiers de Milan. Une villa avec des loggias, ouverte sur un jardin dans lequel coulait une rivière qui alimentait des orgues hydrauliques, des ventilateurs l'été, avec des oiseaux, tout ce qui créait un palais des merveilles, un petit peu sur le modèle de ces palais andalous que l'on connaissait bien.
À cette période de première euphorie, Pascal Briouat, Louis XII va visiter l'atelier du maître.
Le voilà, notre cher et bien-aimé Léonard de Vinci. C'est une grande joie pour moi d'être dans cet atelier où se trouvent tant de vos chefs-d'œuvre. Mon Dieu, comme c'est beau!
C'est le roi, vraiment Louis XII.
Oh, c'est une très grande merveille.
Ici, presque tout est l'œuvre de mes élèves, Votre Majesté. Et rien n'est tout à fait terminé.
Pas encore terminé. Oh, mais cette dame! Je vous en donne ce que vous voulez et l'emporte avec moi en France. Par bonheur, elle est sur bois et non sur de la pierre comme l'était la Seine.
Malheureusement, ce portrait est inachevé.
Vraiment inachevé, cela ? D'Amboise. Cette vigne qui avait été séquestrée.
Maître Léonard est de nouveau propriétaire de sa vigne.
Ah ! Cette vigne, reprise par les envahisseurs, pour Léonard, d'origine paysanne, elle représentait la terre à laquelle il reste profondément attaché. Le havre de paix où venir se retirer un jour, lui qui n'a jamais cessé de parcourir les routes.
Alors le voilà, toujours le même feuilleton de Jean-Dominique de la Rochefoucauld, nanti de nouveau de sa vigne, et il garde les tableaux en disant « Ces portraits de femmes, peut-être la Joconde, c'est inachevé. » Vous citez dans votre livre, Pascal Briouat, le pape. Cet homme ne fera jamais rien parce qu'il pense à la fin de son ouvrage avant de l'avoir commencé.
Oui, c'est Vasari qui rapporte l'anecdote. Léonard se préoccupe à ce moment-là de réaliser des vernis très spéciaux, très spécifiques pour la future œuvre. Mais si on s'intéresse au vernis, on ne peint pas. Donc c'est le souci du pape. Et les tableaux vus à Milan peuvent être aussi bien la Joconde, vous avez raison, mais aussi la Sainte Anne ou la Vierge Rocher.
Mais il achète un tableau, Louis XII, parce qu'il va bien falloir dire à nos amis de la Ligue du Nord, d'extrême droite, au gouvernement en Italie, pourquoi la France a tel ou tel tableau. Alors, il y en a qui viennent de Louis XII ?
Non. Non. Mais les commandes sont peut-être faites à l'époque de Louis XII. Florimond Robertet, un des officiers de Louis XII, commande la Vierge Rocher, par exemple.
Bon, mais Louis XII va devoir plier bagages, le duc d'Amboise va mourir, et Léonard de Vinci va se retrouver toujours la vie errante de celui qui cherche la liberté par la protection des souverains, à Rome, où il mène une vie assez discrète par rapport à celle fastueuse qu'il avait pu connaître auparavant. Et heureusement, François Ier vint.
Thank you.
Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Léonard de Vinci entre Italie et France. Je n'ai pas dit tous vos mérites, Pascal Briouat. Alors, homme orchestre, vous avez aussi confectionné une web-série cette année. Vous avez fait un disque avec Frémaux sur François Ier. Puis je n'ai pas dit que vous étiez un homme du Val-de-Loire. Et donc vous avez automatiquement reconnu...
Douce mémoire, l'ensemble Douce mémoire dirigé par Denis Rézindard. Et les flûtes incroyablement précises.
Alors vous allez nous expliquer comment Léonard de Vinci arrive chez vous. Mais d'abord, autre moment d'euphorie, celui qui... suit l'époque de Marignan, la victoire de Marignan. François Ier a assuré sa position en Italie pour un moment, est redevenu proche du pape, pense pouvoir contenir Charles Quint, mais il sera finalement élu empereur, et va partir d'ailleurs pour une tournée, pour se faire voir un peu partout en France et chercher des écus aussi. Donc tout va bien là dans ces années 1515-1516 apparemment pour le roi de France.
Tout à fait, hein. Tout va bien.
Et alors, pourquoi Vinci vient-il ?
Alors Vinci a évidemment impressionné Louis XII, a impressionné tous les courtisans de la cour de France et... Il est tout à fait possible que l'enjeu pour François Ier et sa mère Louise de Savoie soit d'inviter un peintre, mais aussi un ingénieur, capable de construire un gigantesque palais à la gloire de la nouvelle dynastie.
Ah, c'est là que vient de nouveau, pour la deuxième fois dans cette émission, le nom de Romorantin. Mais laissons un petit peu Romorantin quand même comme dans un songe, pendant un instant. Il part avec sa bibliothèque, ses élèves, les tableaux, ses notes, des animaux.
Il part incroyablement chargé, c'est-à-dire que il y a sans doute... il nous reste 6000 pages de Léonard de Vinci, mais il y en avait bien plus auparavant. On le sait parce que Léonard fait allusion à ces pages manquantes. Donc on a des milliers de pages, voire plus d'une dizaine de milliers de pages. On a une bibliothèque de 250 livres, ce qui est énorme à cette époque. On a les tableaux, ce qui suppose une très très grosse logistique. Alors si Léonard a traversé les Alpes, première hypothèse, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment énormément de chariots. L'autre hypothèse que j'aimerais développer, c'est la possibilité que Léonard soit parti par voie de mer depuis Rome et ensuite Marseille et ensuite il est tout à fait possible qu'il ait remonté le Rhône jusqu'à la rupture de charge.
En tout cas, à la fin de l'automne 1516, il est dans le Val-de-Loire. On verra où il est installé, mais parlez-nous, parce que vous êtes impatient, de la Villa des Merveilles, du Palais Idéal, Romorantin, selon Léonard.
Alors Romorantin, on a longtemps cru que ça n'était qu'un projet en l'air. On a 5 malheureux dessins assez petits. Et beaucoup ont considéré que c'était une hypothèse, mais rien d'autre. En fait, on a réussi à prouver il y a quelques années de cela que les travaux avaient commencé. Et des travaux sur 400 mètres de long, quand on sait que Chambord c'est 100 mètres, c'est un projet colossal. Un projet avec des palais, peut-être des palais jumeaux, des écuries géantes et un quartier pour loger la cour. Parce que l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle en italien una regia, c'est-à-dire un palais où on peut loger le gouvernement et les courtisans.
Mais vous parlez de la mère de François Ier, palais jumeaux, c'est peut-être pour sa mère. C'est très important aussi, sa mère. On parle moins de Louise de Savoie et de son rôle.
Absolument. On a découvert... à peu près à la même époque, une lettre envoyée par Bonnivet, qui était un important courtisan de la cour de François Ier, à l'ambassadeur d'Italie. Et la lettre dit que c'est François Ier et Louise de Savoie qui attendent vivement Léonard de Vinci.
Et en tout cas, c'est dans une demeure au pied du château d'Amboise qui appartient à Louise de Savoie, le Clos Lucé, qu'est installé Léonard de Vinci.
Au pied des remparts du château d'Amboise, un petit castel de briques roses et de pierre blanche qui tient à la fois d'une bonne maison bourgeoise et d'une riche demeure campagnarde. Sous le nom de Clos Lucé, la construction existe toujours. De nombreux visiteurs y viennent en pèlerinage.
Bonjour et bienvenue au Clos Lucé. Ici, nous sommes chez Léonard de Vinci, où il a vécu il y a pile 500 ans. Et on célèbre d'ailleurs le 500e anniversaire des années Léonard de Vinci au Clos Lucé. On a deux grandes nouveautés, les ateliers dans lesquels on se trouve, et puis les jardins que vous allez découvrir. Ici, dans cet atelier, on est au cœur d'une journée de travail chez Léonard. Après l'atelier de l'artiste et du sculpteur, on découvre son cabinet de travail. On l'imagine en train d'écrire dans ses manuscrits, et puis on découvre son cabinet de curiosité avec Léonard et sa fascination pour la science.
Bon bah écoute Frédéric, moi la visite des ateliers j'ai trouvé ça super.
Moi j'ai adoré la visite des jardins.
Bon, je crois que... Bref hein.
Hein, faut y aller.
Voilà, c'est une recommandation de France Bleu Touraine. C'est un filon d'ailleurs, le Clos Lucé, dans les propriétaires actuels. La famille Saint-Brie tire le meilleur parti, c'est pas vous qui allez me contredire.
Non,
Pascal
non, ils s'y investissent beaucoup.
Ouais. Et c'est une vraie rente que touche Léonard de Vinci au Clos Lucé, lui.
Oui,
une rente royale.
Absolument. Il reçoit l'équivalent de 2000 livres par an, ce qui est l'équivalent de ce que reçoit par exemple Stuart de Bigny, c'est-à-dire un des grands officiers de l'armée de François Ier.
Léonard de Vinci, il est tout le temps sur le terrain, sollicité pour aller prendre les mesures hydrauliques nécessaires à la construction du palais de Romorantin, pour organiser des fêtes. On le voit même piloter la construction d'un lion automate qui va servir pendant le Tour de France de François Ier à une fête à Argentan. Il est vieux pourtant.
Oui, il a 65 ans. Enfin, et dès la période qui précède, à Rome, il se préparait à l'art de bien mourir. Donc il n'est pas très optimiste sur la fin des événements.
Mais l'autoportrait qu'il représente à cette époque est fidèle ?
C'est compliqué. D'abord,
les cheveux blancs, la longue barbe
blanche. Oui, mais
blanche.
Qui dit que c'est un autoportrait ? Ça n'est pas désigné par Léonard comme un autoportrait. Et Daniel Arras a montré que ce portrait, sans doute réalisé dans les années 1490, serait plutôt celui d'Aristote ou de Platon.
Parce qu'il voulait jouer le rôle d'Aristote auprès de François Ier, qui aurait été Alexandre.
Oui, sans doute. C'est un moyen de se donner à voir en philosophe de cour. Et le portrait qu'on a par Melzi de Léonard...
Alors Melzi, c'est...
Melzi, c'est le grand apprenti, le fils spirituel de Léonard, ressemble effectivement à l'autoportrait de Turin. Mais pas tout à fait. Mais sur son vieil âge, Léonard veut avoir les cheveux longs, la barbe noble... D'un philosophe conseiller des princes.
1519, il rédige son testament à la recherche d'une bonne mort et il couche Melzi sur le testament. Mais il est question des tableaux. Moi, je m'intéresse toujours aux tableaux qui sont là au Louvre et qui font débat avec nos amis de la Ligue d'extrême droite en Italie.
En fait, en 1518, Léonard avait confié à Salaï, un autre de ses apprentis, dont il était très proche, la charge de vendre à François Ier les tableaux. Et dans les archives double K, nous avons les traces de cette vente. Donc là, on a une vente officielle. Donc le gouvernement italien ne peut pas tellement dire qu'on a volé les tableaux de Léonard de Vinci, c'est-à-dire que la Joconde, la Sainte-Anne et le Bacchus ont été bel et bien vendus, et peut-être d'autres toiles, ont été bel et bien vendues à François Ier.
Jean-Baptiste.
Oui, Bacchus Saint-Jean-Baptiste. C'est justement, Léonard jouait sur l'ambiguïté.
Alors dites-moi, il y aurait des tableaux vendus avant la mort de Léonard, mais on retrouve après dans la succession de Melzi, celui qui hérite, pour l'essentiel, en 1519, des tableaux qui sont achetés plus tard, vendus par la famille et achetés plus tard. Et ça, c'est quoi ces tableaux?
Alors, il s'agit probablement de copies, de même que Salaï avait lui aussi des copies en Italie.
Alors, donc, nous avons trois tableaux dans les collections royales. Et combien de...
Peut-être quatre. Peut-être y avait-il la Léda, mais elle a été perdue.
Ouais. Il y a d'ailleurs combien de tableaux de Léonard de Vinci?
Oh, il y en a, disons, 15 authentifiés.
Là, je croyais que c'était entre 14 et 17.
Oui. Ouais. Bon. Je suis peut-être un peu sévère.
Alors, voici maintenant que vient le moment de la mort. C'est donc exact, c'est toujours exact ce que dit Vasari, le roi de France, François Ier, est là et
exact.
Prend le vieillard dans ses bras. Ce n'est pas exact.
Non, malheureusement, non. Voilà un fake. Voilà une fausse nouvelle que Vasari colporte, mais il se trouve que le jour de la mort de Léonard, François Ier était à Saint-Germain-en-Laye. Il était à ce moment-là en train de régler un certain nombre d'affaires, dont le futur baptême de son fils. Donc il ne pouvait pas, matériellement, être au Clos Lucé ce jour-là.
Mais c'est une belle image, très très forte, comme la formule qu'il prête au pape, c'est un homme qui commence tout et qui n'achève jamais son ouvrage.
En fait, Vasari a un réel talent pour créer une figure mythologique.
Léonard s'était fait enterrer en France. Pourquoi est-ce qu'il s'était fait enterrer à Saint-Florentin? Au fond, il aurait pu rentrer au pied de sa vigne, à Milan.
D'abord, je pense qu'il a été surpris par la mort, même s'il a été, l'année précédente, il a été paralysé. De toute façon, il savait, en venant en France, que ce serait le dernier voyage.
Et puis, il savait aussi que la cour lui rendrait longuement hommage. Encore, fallait-il que la cour pût le faire longtemps.
Léonard est mort. Mais il n'échappe pas cependant au destin tragique qui le poursuit. Pendant les guerres de religion, l'église de Saint-Florentin, où était son tombeau, fut mise à sac.
Allez, ça suffit maintenant!
À l'époque de la Révolution française, le plomb qui enveloppait son cercueil fut fondu pour faire des balles, et ses ossements jetés dans une fosse commune. Et c'est là que reposent, perdus parmi tant d'autres, les restes de Léonard.
Vous voyez bien, Pascal Briac, on n'a pas à faire confiance à la France.
Et aux révolutionnaires.
Et aux révolutionnaires, oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il est advenu des restes tamisés, pour certains identifiés, non, de Léonard de Vinci? La certitude, c'est qu'ils sont à Amboise, quelque part. Ce qui est moins certain, c'est que le gros crâne qu'on a découvert à l'endroit où était auparavant Saint-Florentin au XIXe siècle, soit vraiment celui de Léonard. C'est ce gros crâne qui a été enterré dans la chapelle du château d'Amboise et que l'on nous montre comme le lieu de la tombe du grand génie. Mais à la vérité, on n'en sait rien.
Donc le grand génie devait ressembler à un vieillard plein de sagesse et avoir un gros crâne. Qu'est-ce que vous attendez de cette année Vinci? Alors, on n'attendait pas les polémiques peut-être un peu inutiles qui se sont levées, mais qu'est-ce que vous en attendez, vous? Vous y êtes préparé depuis des années.
Oui. D'abord, je pense que ces polémiques peuvent s'arranger. Ce qu'on attend aujourd'hui de Léonard, c'est revenir sur les lieux communs, peut-être. Revenir, par exemple, sur cette notion un petit peu bancale de génie, parce que qui gomme complètement tous les prédécesseurs de Léonard, mais aussi aller plus profondément dans l'intelligence de Léonard. Entrer dans le détail de tout ce qu'il a fait dans les sciences, dans les techniques et dans la peinture. Là, en fait, le grand public a encore beaucoup à découvrir.
Et donc, essayez d'avoir le coup d'œil de Léonard sans œillères. Merci à vous, Pascal Briouat. Et je recommande, entre autres de vos productions, Les Audaces de Léonard. C'est à paraître aux éditions Stock. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Nolwenn Bokri, Ilinaka et Negulesco. Je l'ai bien dit. La réalisation, c'était Lisco, mais à la technique, Ludovic Asselot. Et chez vous, Daniel Fievet, pour la tête au carré.
Bonjour Jean Lebrun. Nous, on va parler des insectes et des menaces et des dangers qui pèsent sur les populations du peuple à six pattes.
Dans un instant.